francophones et francophiles. Bienvenue dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On a un menu différent aujourd'hui dans l'émission pour vous surprendre un peu, pour vous désarçonner. Les revues de presse internationales et provinciales sont plus courtes. Le plat principal, si j'ose dire, ce sont deux excellentes interviews. La première avec l'analyste politique Till Phelps-Bondaroff à propos du feuilleton post-électoral en Colombie-Britannique et la seconde interview avec l'adepte de plein air Gabriel Gagnon à propos d'un face-à-face récent avec un ours dans les montagnes rocheuses. Face-à-face qui, heureusement, s'est bien terminé. Tout ça au programme de cette édition du 16 juin qui débute tout de suite. Bonne émission à tous. Mon nom est Alexis Gagnon, vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne du 107.9 FM. On commence tout de suite avec votre revue de presse internationale. L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl est mort. C'est dans le fil de l'agence France-Presse, sous la plume du journaliste Antoine Lambroschini. C'est également dans tous les médias. Vous aurez également des articles, par exemple, dans le portail de RFI, Radio France Internationale, ou encore dans le portail du journal Le Monde. Helmut Kohl, père de la réunification allemande, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie allemande après-guerre, est mort à l'âge de 87 ans, vendredi 16 juin. Nous sommes en deuil, a annoncé l'Union chrétienne démocrate, son parti, sur son compte Twitter, tandis que le quotidien populaire Bild, dont la direction était très proche de l'ex-chancelier, a précisé qu'il était décédé ce matin dans sa maison du sud-ouest du pays. Helmut Kohl était l'essence même de l'Europe, a commenté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il était, rapporte cet article de l'AFP, en très mauvaise santé et cloué dans un fauteuil roulant depuis 2009. Il avait notamment souffert d'un accident vasculaire cérébral et s'était cassé la hanche. La chancelière Angela Merkel, qui lui avait pris les commandes du parti à l'issue d'une bataille interne, n'a pas réagi dans l'immédiat. Cet ancien chancelier, poursuit cet article de l'agence France-Presse, colosse physique et historique, est le père incontesté de l'Allemagne réunifiée. Il restera dans l'histoire pour avoir forcé la main des dirigeants soviétiques et américains Mikhail Gorbatchev et George Bush, père, mais aussi ses alliés européens, pour que la RDA, l'Allemagne de l'Est, autrement dit anciennement communiste, rejoigne la RFA en 1990, moins d'un an après la chute du mur de Berlin. Alors cette nouvelle se trouve, je le disais, dans tous les médias du monde. Vous l'aurez dans le fil de l'agence France-Presse notamment. L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl est mort. Dans le portail Mediapart à présent, sous le feu d'une nouvelle enquête, Donald Trump enrage. C'est par le journaliste Philip Coste. La justice américaine, en la personne du procureur spécial Robert Mueller, enquête sur le président lui-même soupçonné d'entrave à la justice dans l'affaire de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Pendant ce temps, les parlementaires américains du Parti républicain essaient de légiférer. Moyen-Orient, toujours dans les colonnes de Mediapart, Al-Baghdadi, de calife à fugitif. Donc c'est un article qu'on se doit de signaler sur le chef de l'organisation État islamique, Al-Baghdadi, qui pourrait avoir été tué lors d'un raid de l'aviation russe à Raqqa. Il s'est montré insaisissable depuis sa proclamation d'un califat en Irak et en Syrie il y a 3 ans. Alors, Al-Baghdadi est peut-être mort sous les bombes de l'aviation russe. C'est dans le fil de l'agence Reuters. C'est repris par plusieurs médias, évidemment. Je vous lis quelques lignes. Le chef de l'organisation État islamique Abu Bakr Al-Baghdadi, qui pourrait avoir été tué lors d'un raid de l'aviation russe à Raqqa, s'est montré insaisissable depuis sa proclamation d'un califat en Irak et en Syrie il y a 3 ans. Ce califat est sur le point de perdre ses deux derniers grands bastions urbains, Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie, mais Al-Baghdadi, selon des spécialistes et responsables politiques, ne s'y trouve plus depuis longtemps, préférant profiter de l'immensité du désert et du soutien de certaines tribus sunnites pour échapper à l'arrestation ou à la mort. Le sort d'Al-Baghdadi n'est pas certain. Certains observateurs croient qu'il serait mort dans des bombardements russes. Il est peut-être ailleurs dans le désert, en fuite. En tout cas, il n'est plus dans les forteresses tenues par l'État islamique que sont Raqqa et Mossoul. Vous trouverez ça dans le fil de Reuters, je le disais. Toujours dans le fil de Reuters, Erdogan indigné par l'inculpation de gardes du corps à Washington. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis jeudi de faire le nécessaire pour contester l'inculpation par la justice américaine de membres de son service de sécurité accusés d'avoir molesté des manifestants pendant sa visite récente à Washington. Si vous avez suivi cette actualité, elle était souvent accompagnée d'une vidéo accablante pour les gardes du corps d'Erdogan. Ceux-ci se sont en effet rués sur des manifestants qui étaient en bordure du trajet de la limousine du chef d'État turc, et on peut dire qu'ils se sont même rués sauvagement sur des manifestants pacifiques. Alors, ils font l'objet, ces gardes du corps du président turc, d'inculpation. On verra jusqu'où ces mises en accusation seront portées. Et bien sûr, Erdogan qui réagit négativement à cette nouvelle. Vous trouverez ça dans le fil de Reuters. Cuba, le président Trump détricote un peu le rapprochement amorcé par Obama. C'est dans le portail de RFI, à l'adresse rfi.fr. Donald Trump s'attaquera ce vendredi 16 juin à l'une des initiatives les plus emblématiques de son prédécesseur, le rapprochement avec Cuba, entamé en 2014 après plus d'un demi-siècle de tensions. C'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump, effacer purement et simplement l'initiative de Barack Obama sur Cuba. Mais au final, la nouvelle administration Trump aurait opté pour une approche moins radicale. Donc vous aurez les détails dans cet article de RFI à l'adresse rfi.fr. Et signalons qu'aux États-Unis, sur le portail de CNBC, qui est une chaîne de nouvelles semblable à CNN, on retrouve une brève sur Raúl Castro, le frère de Fidel, qui lui a succédé. Raúl Castro, donc, nous indique que CNBC va prendre sa retraite en 2018. C'est sur cette actualité qui provient de Cuba qu'on referme la revue de presse internationale du vendredi 16 juin. Demeurez avec nous à l'antenne de CILS FM 107,9. On revient de l'autre côté de la courte pause musicale avec une revue de presse provinciale et locale. Ce sera ensuite suivi de deux interviews bien spéciales. À tout de suite.
Lentement, plus lentement. J'avance, plus je suis en suspens. Comment faire fast-forwarder le slow motion? Ma pendule est arrêtée, le rêve.
C'était la formation Pontex, une formation françaisquoise qu'on n'avait pas entendue depuis un petit moment dans l'émission Le Débrief. La pièce en question s'intitulait Béa. L'info se poursuit dans cette édition du 16 juin. Merci d'être à l'écoute. On va faire une petite revue de presse provinciale qui va se limiter à un ou deux articles avant d'aller au sujet provincial principal qui est notre interview avec Till Phelps Bondaroff. Till, qui est un observateur avisé de la politique britanno-colombienne, va nous livrer ses observations, réflexions, analyses sur la situation actuelle, la situation post-électorale qui prévaut actuellement en Colombie-Britannique. Alors justement, à propos de cette situation post-électorale, on trouve sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique un article intitulé « Le rôle du whip plus important que jamais en Colombie-Britannique ». C'est un article signé par Naila Bendali. Le whip de chaque parti en Colombie-Britannique devra s'assurer de l'assiduité et de la cohésion de ses troupes, un rôle d'autant plus important que la législature provinciale est divisée. Dans une situation où une seule voix peut avoir une importance capitale dans les votes de confiance, écrit la journaliste, le rôle du whip sera plus important que jamais, selon le plus ancien whip fédéral, Jay Hill. Ce dernier a assumé ce rôle au sein du Parti réformiste de la Colombie-Britannique, de l'Alliance canadienne et du Parti conservateur du Canada. La situation en Colombie-Britannique en ce moment est très unique, a-t-il confié à la journaliste de Radio-Canada. Je n'ai jamais vu rien de tel dans l'histoire de la province et du Canada. Le whip doit agir en tant que préfet de discipline, tacticien et psychologue, explique pour sa part Yves-François Blanchet, qui a été whip du gouvernement minoritaire de Pauline Marois au Québec pendant quelques mois en 2012. Lorsque quelqu'un n'est pas content de quelque chose, il faut rapidement comprendre et canaliser le mécontentement pour éviter que ça ait un impact négatif sur le fonctionnement du parti, précise-t-il. Le rôle du whip peut s'avérer plus délicat quand aucun parti n'a la majorité des sièges à l'Assemblée, estime Yves-François Blanchette. L'intensité et la fébrilité dans un contexte de gouvernement minoritaire sont plus élevées, donc garder les députés heureux et disciplinés, c'est un peu plus difficile, a-t-il confié à Radio-Canada Colombie-Britannique. Étant donné que chaque député a un poids important à l'Assemblée, certains peuvent utiliser leur influence pour obtenir des faveurs ou encore se laisser séduire par l'un des autres partis, ce qui pourrait renverser la vapeur en chambre, a déclaré l'ancien whip du Parti québécois à la journaliste de Radio-Canada. On est aux aguets, dit-il. Tu sais quels élus qui ont davantage de propension à exprimer des désaccords ou à être des revendicateurs et tu les surveilles un peu plus. L'élu qui voudra changer de camp n'annoncera pas publiquement sa volonté, mais en connaissant bien l'équipe, il est possible d'éviter ces situations, estime Yves-François Blanchette. Et Jay Hill, cet autre whip qui est interviewé dans cet article, déclare « Il faut demander constamment à ses collègues s'ils veulent être cités dans les livres d'histoire comme le député, peu importe de quelle allégeance, qui a causé la défaite de son gouvernement et a déclenché d'autres élections. » Alors, les préfets de discipline, les whips, comme on les appelle, vous avez un portrait de ce rôle, de cette fonction dans les partis politiques. Et ce rôle est particulièrement important actuellement, vu le gouvernement minoritaire qui va présider aux destinées de la province prochainement. Donc, on parle justement de politique provinciale dans un instant avec Till Phelps Bondaroff. On écoute ça dans quelques instants. On va parler justement de la situation minoritaire et des derniers développements. De retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. Alors, le feuilleton politique se poursuit en Colombie-Britannique. Le suspense continue. On a toujours des points d'interrogation, des interrogations majeures concernant le gouvernement qui dirigera cette province. Le scrutin, rappelez-vous, a eu lieu il y a plus d'un mois. De nouveaux chapitres se sont ajoutés et l'incertitude a persisté. J'ai le plaisir de retrouver en studio Thierry Till Phelps Bondarov. Bonjour Till.
Bonjour, comment ça va?
Enchanté de te retrouver. Alors, chers auditeurs, vous connaissez Till. Il est venu au micro du débrief à quelques reprises. Nous l'avons aussi croisé au Festival de la Francophonie récemment.
On a parlé des petites bibliothèques gratuites là-bas. Ouais.
C'est ça, on a parlé d'un des nombreux projets de Till à cette occasion, des bibliothèques gratuites réparties un peu partout dans les quartiers des municipalités. Till est un spécialiste de la politique, il fait de la politique, il a prêté main forte au candidat du NPD dans Oak Bay Gordon Head, Bryce Cazavant. Il a un diplôme de Cambridge en politique internationale, donc la politique, vous le devinez, c'est sa passion. Aujourd'hui, Till, on parle justement de l'Assemblée législative de Colombie-Britannique. On a beaucoup de questions à aborder. C'est intéressant, des gouvernements minoritaires, parce que ça permet de rafraîchir les notions entourant la démocratie de type Westminster. On sait qu'on a un nombre de sièges à peu près égal entre le Parti libéral et le Parti néo-démocrate. Est-ce qu'un siège de majorité, un seul siège, est suffisant pour gouverner cette province, selon toi?
Bien, je pense que c'est vraiment suffisant. Une majorité est une majorité à la fin de la journée, même si c'est deux sièges ou une vingtaine de sièges.
Oui.
Et aussi, je pense que les citoyens et les citoyennes de Colombie-Britannique veulent un gouvernement qui fonctionne. Les étudiants retournent à l'école en septembre et on a un système d'éducation et de santé qui a vraiment besoin d'être amélioré après des années et des années de problèmes avec le gouvernement Christie, le système délissé par
le gouvernement Christie.
Oui, c'est ça. L'ancien gouvernement Christie. Alors, ouais, je pense qu'une majorité de 1, c'est suffisant. C'est très proche. Ça rend les choses un peu plus intéressantes, mais à la fin de la journée, c'est une majorité.
C'est une majorité qui est le produit d'un bricolage, puisque c'est l'addition des sièges néo-démocrates avec les sièges du Parti vert. Donc, ça fait un total de 44.
Ouais.
Et c'est suffisant pour former un gouvernement. Maintenant, il y a des questions qui ont été soulevées sur l'identité du président de la Chambre, du président de l'Assemblée législative. Est-ce que tu peux éclairer les auditeurs sur cette question qui a l'air très épineuse?
Ben, selon moi, c'est pas une trop grande question. C'est une question de ce qu'on suit, quelle convention, ce qu'on va choisir à suivre.
Mm.
La pratique, c'est que les membres des législateurs électons un président de l'Assemblée par un scrutin secret.
Mm-hmm.
Et par convention, le président est élu de la partie en gouvernement, qui au moment, c'est le Parti libéral.
Oui.
Et puis, après ça, la convention, c'est que le président a le pratique de voter, il ne vote pas, il est un membre neutre de la Chambre.
Ben, c'est ça le problème.
Oui, c'est ça, parce que si on...
Ça va soustraire un vote au parti qui va donner le président.
C'est ça. Et là aussi, le président, quand il... ont besoin de voter. C'est une situation de voter quand les votes sont égaux. Ils votent d'une façon, traditionnellement, de laisser continuer le débat et de rester le status quo. Alors, le problème, c'est quel parti va suggérer un président, un candidat pour le président.
Mm-hmm.
Tous les libéraux ont dit qu'ils ne veulent pas se présenter comme candidat pour être le président. Et comme vous avez dit, il y a le problème que l'NPD et les Verts ont 44 sièges, les libéraux en 43, et avec quelqu'un qui devient président, ça rend...
Ça fait 43-43, l'impasse, ce qu'on dit en anglais, stalemate, l'impasse, le cul-de-sac, donc impossible d'avancer.
Pas vraiment, selon moi, si on veut suivre vraiment la convention, les libéraux devraient se présenter un candidat. Et en même temps, c'est un peu hypocrite de opposé et de critiquer le gouvernement NPD supporté par les Verts, de ne pas suivre la convention si lui-même ne suit pas la convention. Alors, c'est un peu bizarre.
Qui obligera les libéraux à présenter un candidat à la présidence de l'Assemblée?
Ben, c'est pas la loi. Il n'y a aucune loi de ça. C'est seulement la convention, la tradition. Alors, c'est vraiment une question de si les libéraux peuvent vraiment arrêter les choses dans le législateur pour un peu de temps. Et je pense que ça va endommager leur futur politique parce que tout le monde sait qu'il n'a pas la majorité et c'est fini.
Voilà. Alors, on sait que Christy Clark va probablement, et c'est presque une certitude, perdre le vote de
confiance.
Elle
dit ça soi-même, ouais.
Ouais, donc elle va perdre, c'est presque une certitude, le vote de confiance du 22 juin, 23 juin.
Ouais, on va voir, ouais.
Ouais, autour à peu près. Donc par la suite, est-ce qu'il y aura un président? C'est la question qu'on se pose.
Le président a besoin d'être élu avant la vote de confiance. Alors la question, c'est quel... ouais, c'est ça, okay. Parce que la vote de confiance, le législateur ne peut pas fonctionner sans président de l'Assemblée.
D'accord.
C'est la première chose, c'est le autre permanent 11, et c'est section 37 de la Constitution de la province, dit que le président a besoin d'être élu en avant d'avoir des votes. Et ça fait du sens d'une façon, parce que quand vous pensez les personnes qui parlent dans la législature, on dit il ne peut pas parler directement aux autres membres, il a besoin de parler à travers le président de la Chambre. Alors, on a besoin d'un président de la Chambre. Alors, selon moi, la meilleure chose pour les libéraux, c'est de suggérer un candidat pour servir comme président. Peut-être Linda Reid, le président maintenant.
Pourquoi Linda Reid?
Elle est déjà le président maintenant, okay. Actuellement. Ou quelqu'un d'autre. Et ça, c'est s'il veut suivre la convention. Mais sinon, je sais pas parce que...
Alors, s'il refuse de présenter un président, de fournir un président à l'Assemblée, on retourne en élection.
Ça, c'était ce qui s'est passé en 1908. J'ai des notes ici parce
dans
que c'est
quel,
un peu
dans
bizarre.
Quel pays? Dans quel,
en Terre-Neuve. Il y avait une situation
d'accord.
Où deux partis, chacun tenté de former un gouvernement. Et en bon sens, on avait besoin de choisir un président de la Chambre. Il n'a pas réussi et ils ont retourné à l'élection. Selon moi, les citoyens et les citoyennes de la Colombie-Britannique ne veulent pas une autre élection dans 3 ou 4 mois. La dernière élection, ils m'ont dit que... ça coûtait 44 millions de dollars. Mm. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup d'une façon pour une province. Mais les autres contextes, comme par exemple en 2003, dans le Nouveau-Brunswick, il y avait une situation presque semblable.
D'accord.
Dans ce cas-là, il y avait 28 conservateurs, 26 libéraux et un nouveau démocratique.
Ah oui.
Et le gouvernement de Bernard Lord, des conservateurs, a choisi un président de la Chambre, Bev Harrison. Et puis...
De quel parti?
De leur parti,
OK.
Et le président de la Chambre a arrêté les débats sur les motions de l'opposition, a pris une position un peu plus partisan de,
oui.
Autrement, et après quelques temps...
Même s'il n'avait pas le droit de se prononcer, parce qu'a-t-il le droit de se prononcer ou pas?
Dans une situation où il y a une égalité des votes, et
oui.
Aussi... Le président contrôle le débit de la débat dans la Chambre. Alors, ça, c'est pourquoi une façon qu'on veut un président un peu avec moins de...
Partisanerie.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Parce qu'il contrôle le débat et on veut un président un peu... qui rend les débats plus égaux, d'une façon. Mm-hmm. Mais à la fin de la journée, je pense qu'on a deux situations possibles. Soit une élection que personne ne veut, et je pense que si nous avons une élection, on va punir les libéraux pour
oui.
Être dans des situations politiques un peu dégueulasses. Ou l'autre situation, c'est une situation où nous avons un gouvernement minoritaire d'NPD supporté par un accord des Verts. Et puis, si la situation où il y a un vote d'inégalité, le président de la Chambre vote pour maintenir la situation de status quo, qui sera un gouvernement d'NPD vert.
Alors, les libéraux n'ont surtout pas envie de se faire punir par les électeurs pour avoir déclenché une nouvelle élection, avoir causé une nouvelle campagne électorale très fatigante, exténuante, très coûteuse aussi en fonds publics. Et vraisemblablement, ils vont finir par céder et consentir à fournir un président à l'Assemblée.
Et aussi la question des politiques internes de la partie libérale. Mm. Nous avons des membres de la partie qui sait que Christy Clark est finie. Et la plus longtemps qu'elle continue des machinations politiques pour rester dans le pouvoir pour quelques mois ou pour causer des problèmes pour le nouveau gouvernement, l'NPD, le plus les membres de la partie libérale, selon moi, ont de bonnes raisons pour la pousser à l'arrière.
Il y a de la division dans le camp libéral actuellement?
Il y avait quelques personnes, mais je pense des personnes comme Ralph Salton, qui n'aime pas Christie. Il a déjà abordé des situations, conversations politiques avec elle. Il y avait des autres personnes qui mentionnent des choses. C'est vrai que tous les membres de la Parti libéral ont signé un document où on dit qu'ils ne vont pas se présenter comme candidat pour le président de la Chambre. Mais,
ah bon?
Mais selon moi, s'il y a personne qui veut être le président, c'est aussi une question... d'un parti qui place les questions du partisan en avant sujet ouais. important de la province.
Mais tout le monde veut le pouvoir. Le NPD veut le pouvoir, les Verts veulent le pouvoir, donc personne veut fournir de président, là, si je comprends bien. Alors,
on va voir le 22 juin, ça va être un peu intéressant à voir. Mais,
Oui, et c'est ce qui est très important et que tu as souligné à juste titre, c'est que il faut d'abord décider qui préside l'Assemblée avant de procéder au vote de confiance.
Mais selon moi, comme j'ai dit, je ne pense pas que c'était un très grand problème. C'est justement des différentes conventions qui s'opposent.
Oui.
Et la Parti libéral aura un argument très faible s'il essaie de dire que le président de la Chambre qui vote d'une façon un peu plus partisan que normalement et contre la convention, s'ils soi-même ne suivent pas la convention, de suggérer un membre de leur parti pour servir comme le président. Alors, selon moi, la convention, le système Westminster, est créé d'une façon flexible pour accommoder des différentes situations comme celui-là.
D'accord.
Et ça ne va pas briser le système, c'est seulement un petit problème qu'on va régler, j'espère, en...
D'accord. Alors, je t'ai indiqué un passage d'un texte paru récemment dans le Times Colonist qui essentiellement prétend que le président de la Chambre, s'il voulait être à la fois partisan et neutre dans ses fonctions, il devrait présider, descendre de son siège et aller voter, revenir sur son siège de président et faire la navette comme ça entre les deux sièges. Et le chroniqueur du Times Colonist disait que c'était impossible et grotesque. Est-ce que c'est une supposition qui te semble possible? Est-ce que le président pourrait faire ça?
Non, c'est une pièce de théâtre parce que si le président quitte leur siège, le président adjoint prend leur place. Et le président adjoint, c'est traditionnellement un membre de la partie de l'opposition.
Ah.
Alors, de cette façon, c'est une situation, c'est juste, selon moi, soit une blague politique ou soit une façon de rendre les choses plus compliquées.
Okay.
Mais ils ont besoin d'un président de la Chambre pour compter la vote.
Ouais.
Alors, si le président quitte pour faire le vote, ce que je pense est un peu bizarre, de la même façon, le président adjoint va prendre leur place et de cette façon, le vote va passer. Alors,
ce qui est amusant, c'est que cette situation vraiment très, très serrée, très rare dans le système Westminster, suscite toutes sortes de commentaires. Si on se rend, comme tu le fais sûrement, sur Twitter pour consulter le mot-clé BC Poly, toute la journée aujourd'hui, c'est des suppositions, des hypothèses. Non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Non, le système Westminster ne le permet pas. Et là, les gens se renvoient la balle en permanence. Alors, bon, on verra le 22 ou le 23 juin.
Ouais.
Supposons que les Verts et le Parti néo-démocrate puissent gouverner la Colombie-Britannique. J'ai quelques questions pour toi. Alors, est-ce que cette coalition, même s'ils n'aiment pas le terme coalition, on peut peut-être l'employer...
Un accord d'approvisionnement, un accord de coopération, c'est
l'accord de coopération.
La coalition suggère une structure formale.
Oui.
Et ce qui est fait, les conservateurs et les liberal démocrates en Angleterre, il y avait une structure formale. Ils se réunir ensemble dans leur propre caucus.
Oui.
Mais de cette façon, ce n'est pas le fonctionnement de l'accord d'approvisionnement et l'accord de coopération qui existe entre les Verts et les...
OK, c'est très subtil. Les électeurs, en tout cas, ils savent bien que les deux partis collaborent.
Ça,
c'est ce qui est important. Est-ce que tu crois que ces deux partis, le NPD et le Parti Vert, sont capables de faire échouer le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain de la compagnie pétrolière Kinder Morgan?
Ben, j'espère que oui, parce que c'est une grande question pour protéger notre côte.
Oui.
C'est difficile parce que ça rend la question des pouvoirs provincial et fédéral ça rend la surface. Mais il y a beaucoup de choses que le gouvernement provincial peut faire pour retarder le projet de l'oléoduc Trans Mountain. Par exemple, il peut refuser des permis, il peut faire une propre évaluation des évaluations des impacts environnementaux de la projet. Alors, selon moi, il y a beaucoup de choses que le gouvernement provincial peut faire et je veux qu'il le fasse parce que c'est un projet qui va vraiment endommager notre côte. C'est aussi un projet qui est vraiment contre nos promesses de l'accord de Paris et pour protéger l'environnement et aussi pour une vision de l'économie et l'énergie de le futur du Canada. C'est vraiment ça va créer une situation nous avons des investissements de la passé. Alors, on a besoin de vraiment aller à la future.
Et oui.
L'énergie, les oléoducs, les grands projets oléoducs qui ont des grands impacts environnementaux et sur les droits des autochtones aussi.
Oui. Andrew Weaver privilégie une stratégie qui serait fondée sur la Constitution et le droit constitutionnel des autochtones à contester des projets d'infrastructure.
Et si vous lisez le document d'accord entre l'NPD et les Verts, ça c'est la troisième ou deuxième chose sur l'accord.
Oui.
Et c'est très important. Je suggère à tout le monde de lire l'accord entre les deux. Parti parce que les droits des autochtones, c'est très important là-dedans.
Et on le trouve sur le site du Times Colonist, de Check News, du Taï. C'est un PDF qu'on peut
juste
consulter.
Juste 10 pages, c'était intéressant de lire.
Oui, absolument. Deuxième question, toujours une question environnementale. Est-ce que tu penses que cette collaboration entre les Verts et le NPD est capable de faire cesser les travaux du barrage du site C?
Ben, encore, j'espère que oui, c'est un projet qui va coûter les pertes de taxes ici en Colombie-Britannique des milliards de dollars et ça va endommager l'environnement pour la duration de la projet, la duration de construction. Ce qui suggère John Horgan, c'est qu'il va donner l'opportunité à la BC Utilities Commission pour évaluer le projet proprement pour voir s'il peut le faire. C'était une proposition qui était déjà rejetée par le gouvernement Christy Clark quand il était en pouvoir. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est Christy essaie de rendre le projet de CTC jusqu'à la pointe de non-retour pour que c'est impossible de retourner au status quo ou d'arrêter le projet. Je pense qu'une évaluation de la BC Utilities Commission peut être faite rapidement et ils vont trouver que le projet n'est pas très vert, c'est pas vert, ça va endommager l'environnement, endommager les droits des personnes, ça va aussi détruire la propriété de terrain agricole. Alors, selon moi, c'est un projet qu'on devrait arrêter parce que ça va coûter nous très cher.
D'accord. Alors, il y a un accord là-dessus de la part des Verts et du NPD. Maintenant, à propos d'un autre sujet qui est très cher au cœur des Verts que des néo-démocrates, le scrutin proportionnel. Est-ce que les deux partis vont travailler de manière à ce qu'un scrutin proportionnel soit désormais la façon de faire ici en Colombie-Britannique?
Oui, encore la réponse là-bas, c'est oui. Si les gens si les personnes peuvent regarder l'accord entre l'NPD et les Verts, ils peuvent voir spécifiquement que le changement électoral est là-dedans. Dans la première réunion, le législateur va introduire une motion pour avoir un référendum sur la représentation proportionnelle. Je pense que le schedule, voyons, c'est sur l'automne de 2018 et avec l'élection municipale. Et puis après ça, nous allons introduire un système d'élection proportionnelle.
Ah oui, ce serait comme testé durant les municipales.
Non. Le référendum sera dans... en conjunction.
Ah, d'accord. Oui, OK, dans le même bulletin de vote.
Oui, c'est ça.
OK, je comprends.
Alors, c'est, voyons, presque un an maintenant pour le faire. Alors, c'est rapidement. Et puis après ça, il y a les autres changements électoraux. L'NPD et les Verts sont en accord pour changer les financements électoraux, pour bannir les dons corporels des syndicats. Et aussi, en coopération pour la réforme des traitement des activités des lobbyistes et des organisations, des groupes de pression. Alors, il y a beaucoup d'accords sur le sujet des réformes électorales entre les deux partis et je pense que ça, c'est un sujet dont on va avoir beaucoup de coopération dans le législateur.
Est-ce que tu penses que cette coopération qui paraît un peu fragile, en tout cas, ça reste à voir, pourra résister aux pressions du gouvernement de Justin Trudeau? Dans des dossiers clés comme Trans Mountain et d'autres, et à la pression du voisin, l'Alberta, et de la première ministre Rachel Notley.
Avec le gouvernement de Justin Trudeau, nous pouvons voir un gouvernement rempli de duplicité. Alors c'est facile de se présenter contre ça, nous présentons la vérité. Alors, selon moi, j'ai aucune confiance dans le gouvernement de Justin Trudeau. Il a vraiment, avec ses mensonges, il a promis les réformes électorales. Et je ne vois pas encore. Alors, selon moi, il a vraiment failli dans son mandat comme gouvernement. La question de comment est-ce qu'un gouvernement minoritaire supporté par les Verts peut combattre contre les forces d'Ottawa, de Trudeau et d'Alberta, ben, c'est, j'ai beaucoup de confiance en mes amis dans la législature. Oui. Et aussi, je pense que c'est une question très importante pour l'économie britannique, pour notre futur. Alors, on va battre très fort.
OK. Magnifique. Alors malheureusement, le temps file, le chronomètre est déjà très avancé. Merci beaucoup, Till Phelps Bondaroff, pour ces quelques impressions, notes, analyses sur la situation post-électorale de Colombie-Britannique. On n'a toujours pas de gouvernement vraiment établi suite au scrutin du 9 mai. Ça viendra très prochainement, les 22 et ou 23 juin, c'est à suivre. On va suivre ça évidemment dans l'émission Le Débrief. Till, j'espère que tu reviendras au micro pour nous expliquer les derniers développements. Je rappelle à nos éditeurs que tu es expert en politique internationale, que tu as fait beaucoup de politique ici en Colombie-Britannique et en Alberta également. Tu es détenteur d'un doctorat en politique internationale de Cambridge. Tu as beaucoup milité au sein du NPD. Et là-dessus, ben, je te souhaite une excellente fin de journée. Et
merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Encore merci à toi, Till, pour cet éclairage sur la situation post-scrutin du 9 mai en Colombie-Britannique, situation qu'on continue de suivre, bien sûr, dans l'émission Le Débrief. On va maintenant passer à la seconde interview proposée au menu aujourd'hui de cette édition du 16 juin. Dans quelques instants, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Gabriel Gagnon, qui habite dans le secteur de Golden, dans l'est de la Colombie-Britannique. Gabriel va nous relater une rencontre tendue avec un ours noir récemment, lorsqu'il était en camping, un face-à-face qui, heureusement, s'est bien terminé. Restez à l'écoute, c'est dans quelques instants à l'antenne de CILS-FM. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute de votre émission Information, Le Débrief. L'info se poursuit. Je suis aujourd'hui en ligne avec un expert en plein air, un expert en camping, vie sauvage, ski. C'est quelqu'un qui vit dans l'est de la Colombie-Britannique, qui passe l'essentiel de l'année dans cette région. Il s'agit de Gabriel Gagnon. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Alors, je mentionne tout de suite à nos auditeurs que tu es mon frère. On fait ça en famille parfois ici dans l'émission et à la station. Les auditeurs connaissent aussi Louis qui habite en Italie, notre frère qui livre parfois des chroniques sur la science et l'environnement. Alors, tu es comme nous à la station et les auditeurs, tu es britanno-colombien d'adoption depuis quelques temps. Ça faisait plusieurs années que tu venais dans l'Ouest et c'est peut-être le début d'une nouvelle chronique, qui sait, parce que tu as énormément de choses à partager sur le plein air, la vie sauvage, les expéditions, le ski. Et on parle aujourd'hui d'une expérience que tu as vécue récemment. Tu as fait une rencontre assez intense avec un des habitants de nos forêts britanno-colombiennes. Tu as été confronté à un ours. Alors, on va peut-être relater ce qui s'est passé exactement.
Donc, ça s'est passé la semaine dernière, pas loin de la petite ville de Golden, dans l'est de la Colombie-Britannique.
Oui.
Moi et ma copine, on a monté notre tente à la tombée de la nuit, vers 23h, pas loin d'un sentier de vélo sur des terres de la Couronne, à une quinzaine de minutes à l'extérieur de Golden.
Oui.
Puis on s'est immédiatement couché dans la tente. Puis on s'est endormi à ce moment-là, on n'avait pas de nourriture, il y en avait juste nos sacs de couchage, pas de pantalon même dans la tente, c'était dans la voiture. Puis moi j'ai été réveillé le lendemain matin en sursaut par ma copine Roxane qui hurlait de panique parce qu'il y avait un ours noir qui était en train de lui mordre dans la main à travers le moustiquaire de la tente.
Oh là là.
Donc moi, je me suis réveillé en panique. Immédiatement, j'ai vu l'ours. J'ai commencé à hurler de toutes mes forces pour tenter de le faire fuir.
Oui. Est-ce que l'ours a lâché prise? Est-ce que
ouais,
l'ours a...
Oui. L'ours a lâché prise assez rapidement sur la main parce qu'il n'arrivait pas à avoir une bonne prise à cause du moustiquaire. C'est surprenant, mais le moustiquaire a vraiment fait une différence là, dans cette situation-là. Puis ma copine a comme donné un coup avec sa main, puis il a lâché prise. Puis à ce moment-là, exactement, c'est là que je me suis mis à hurler
oui.
de toutes mes forces, puis ça l'a surpris, ça lui a fait peur. Donc, il s'est éloigné à une dizaine de mètres, il est parti à courir. Mais là, il s'est arrêté.
Mm-hmm.
Puis il s'est retourné, puis il nous a regardé à nouveau.
D'accord.
J'ai
alors...
vu qu'il n'y avait pas de peur que ça. Là.
D'accord. Donc, on parle évidemment d'un ours noir et non d'un grizzly.
Oui.
Est-ce que.
Non, c'est un gros ours noir.
Dans une conversation préalable qu'on a eue, tu m'as dit qu'il avait même pénétré dans le vestibule de la tente à un certain moment. Est-ce que c'est à ce moment-là?
À ce moment-là, il était dans le vestibule, c'est ça, parce que le double toit, il va plus loin que le moustiquaire, mais le moustiquaire est comme directement collé sur nous.
Oui.
Donc, ouais, il était dans le vestibule. La porte du vestibule était ouverte, puis il y avait juste le moustiquaire entre nous et l'ours.
Wow! C'est quand même une injection d'adrénaline immédiate et très puissante.
Ah, ouais,
une overdose d'adrénaline de 0 à 100, là, quasiment. Donc,
ouais.
toi, tu as crié à plein poumon. Tu as réussi à faire reculer l'ours qui s'est éloigné d'une dizaine de mètres. Et tu as profité de cet espace-là pour sortir de la tente et continuer à lui hurler dessus.
Ouais, ben c'est de prime abord, j'espérais que ça le fasse complètement là, mon hurlement, mais finalement c'est ça, il s'est arrêté à une dizaine de mètres, puis j'ai vu qu'il allait revenir.
Okay.
Donc là aussitôt que j'ai vu ça, je suis sorti de la tente. J'ai pris la première roche que je pouvais ramasser. Il y avait des roches autour de la tente, heureusement.
Oui.
Puis tout de suite, l'ours il s'en venait vers moi. Donc quand c'était à 3-4 mètres de moi, j'ai lancé la première roche.
Oui.
Qu'il l'a manqué, mais ça lui a fait peur. Donc, il est reparti à peu près à la même distance.
Oui.
Puis, il s'est arrêté, puis il s'est retourné encore. Donc, il voulait revenir. Ça lui faisait pas peur. Il était prêt à entrer en confrontation.
D'accord. Alors, on parle d'un ours mâle adulte.
Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais c'était un adulte.
D'accord.
De pleine taille, oui.
Oui. Donc, quoi, je sais pas, en livres ou en kilos, là. C'est quoi, c'est 250 livres, facile, ça?
Ouais, je dirais qu'il faisait entre 300 et 400 livres.
D'accord, oui. Alors, c'est vraiment une bête, quoi. Et quand on voit ça de proche, une face d'ours, c'est assez saisissant.
Oui, en effet, surtout quand on est couché à terre.
C'est clair. OK. Bon, alors, poursuivons, parce que c'est pas fini. La rencontre continue, le face-à-face se poursuit.
Oui, c'est ça. Donc, la voiture était juste à côté de la tente. Donc, c'était comme notre porte de sortie pour se mettre hors du danger, c'était de rentrer dans la voiture. Sauf que quand je me suis couché le soir précédent, mes clés de voiture étaient dans mes poches de pantalon.
Mm-hmm.
Puis quand j'ai enlevé mes pantalons pour dormir, les clés sont tombées dans le sac de couchage. Sans que je m'en rende compte. Puis, j'ai dormi la nuit comme ça, puis les clés se sont promenées partout. Donc, Roxane, ma copine, cherchait les clés de manière très empressée pour qu'on puisse rentrer dans la voiture pendant que moi, je gardais l'ours à distance avec les roches. Donc, ça a pris 2-3 minutes de recherche intense avant qu'elle finisse par trouver les clés qui étaient au fond de mon sac de couchage.
Aïe, aïe, aïe.
Puis là, elle m'a dit, j'ai trouvé les clés, fait que j'ai dit de courir puis de se réfugier dans la voiture pendant que je gardais le contrôle sur l'ours.
Oui.
Puis une fois qu'elle a été dans la voiture, pas longtemps après, j'ai senti que j'avais un moment, puis j'ai couru, là, j'étais comme à 5 mètres de la voiture, puis après j'ai couru, je suis rentré dans la voiture, puis j'ai fermé la porte. Puis à partir de là, on était en sécurité, là.
Vous deviez avoir un rythme cardiaque à 160 dans le tapis, là. La période de recherche des clés, c'est quand même aussi le moment le plus critique de cette mésaventure-là.
Ouais. C'est extrêmement rare.
Oui. Voilà. Donc.
Comme le type d'attaque.
C'est ce que tu me disais, c'est une attaque de prédation, c'est ça?
Ouais, c'est ça. De prédation, donc l'ours. Était là pour manger ma copine, carrément. Tout dans son comportement le montrait, puis il n'avait pas peur du tout. Il n'était pas agressif. Il ne montrait pas de signe d'agressivité, mais il revenait tout le temps vers nous. Puis dans le cas d'un ours noir, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Puis c'est pire qu'une attaque de prédation de grizzly, dans le sens que le grizzly aime sa nourriture avec un peu de putréfaction. Donc, il préfère laisser sa nourriture pourrir un petit peu puis revenir la manger plus tard.
Oui.
Donc, c'est possible de faire le mort puis de s'en tirer comme ça.
Ah oui?
Mais avec un ours noir, lui, il mange sur le coup.
D'accord.
Donc, c'est vraiment... il faut se battre avec. Hein.
Bon, d'accord. Alors... Maintenant qu'on a fait le récit de ce face-à-face, est-ce que on peut, pour les auditeurs, indiquer quelques conseils, justement, parce qu'il faut quand même pas s'empêcher d'aller dans la nature et de faire du camping. On sait que c'est très rare, mais en fait, pour réduire encore plus les chances de ce genre de rencontre, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est difficile à dire. La plus facile, c'est de pas camper là où les ours habitent.
Oui.
Mais sans en Colombie-Britannique, c'est pas possible. Donc, d'avoir du poivre de Cayenne,
oui,
pour les ours à l'intérieur de la tente, de garder le vestibule fermé. Si on avait eu le vestibule fermé, ça aurait mis une distance. Puis on aurait eu plus de temps pour réagir. Ma copine Alexandre se serait probablement pas fait mort de la main. Mm. Je pense que l'ours serait tout simplement pas venu parce qu'il nous aurait pas vu. Il aurait juste vu la tente. C'est un objet étrange. Puis ça leur fait peur un petit peu, même si c'est juste une tente de toile.
Oui.
Y a des gens qui installent des pieux autour de leur tente en bois ou qui suspendent des cannes de conserve après une corde. Comme ça, si l'ours entre dans le périmètre, ils vont entendre.
Oui.
Ils vont être réveillés avant que ce soit l'ours qui les réveille lui-même. Puis c'est sûr que toute nourriture ne doit pas être dans la tente. Le camp doit être propre.
D'accord.
Rien qui dégage une odeur forte qui pourrait attirer l'ours. Mais ça, c'était pas
votre cas.
Quelque chose qu'on avait fait. Non, puis c'est une précaution bien connue que la plupart des gens prennent. Mais pour les cas d'attaque de prédation très exceptionnelle comme ça, en gros, il faut être prêt à confronter l'ours.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire vraiment. C'est du poivre de Cayenne.
Oui.
Si ça en vient à la confrontation corps à corps, un couteau.
Oui.
Je veux dire, des roches, avoir une pile de roches pas loin de la tente, ça c'est ce qui nous a sauvés, je pense, en fait. C'est d'avoir vraiment. Il y avait un rond à feu là, juste à côté de la tente. Puis je pense que c'est ça qui nous a sauvé la vie, là, plus que d'autres choses.
D'accord. Donc, du poivre de Cayenne qui propulse bien, des roches,
ouais,
à proximité, aucune bouffe dans la tente, un couteau, un bon accessoire à posséder, un couteau de forêt.
Ben, c'est vraiment un dernier recours, mais bon, si ça revient à ça, c'est mieux que rien.
Oui. Et on rappelle bien sûr aux auditeurs que c'est extrêmement rare.
Ouais.
Et voilà. Donc, comme je te l'avais dit, vous êtes maintenant des ceintures noires, des coureurs des bois, ceintures noires. Et ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que vraiment vous avez une très longue expérience du camping. Peut-être qu'on peut évoquer un petit
ouais,
peu
absolument.
Ce que vous avez fait comme exploration, expédition dans l'Ouest et dans l'Est aussi, puisque il y a eu de nombreuses expéditions dans l'Est. Peut-être juste faire un parcours des grands faits d'armes que vous avez fait là, en plein air là, au cours des dernières années?
Ben, beaucoup, beaucoup de randonnées dans l'arrière-pays, randonnées hors sentier même,
oui.
Toujours en camping avec la tente, jusqu'à une dizaine de jours de longueur sans ravitaillement.
Oui.
Beaucoup de ski, énormément de ski hors-piste. Comme tu dis, en Colombie-Britannique, comme au Québec, comme dans le nord-est des États-Unis. On en a fait beaucoup, beaucoup, mais c'est sûr que la Colombie-Britannique, c'est l'endroit où il y a le plus d'ours, il y a le plus de grizzlies aussi, parce que des grizzlies, il n'y en a pas dans l'Est. Énormément de camping, du planting aussi. On a planté des arbres, on a été sur des camps. On a vécu, l'été passé, on n'avait pas de maison, donc on a passé 5 mois à dormir dans la voiture, mm-hmm. Des fois dans la tente aussi.
Oui. Et vous avez...
Donc, on a beaucoup, beaucoup d'expérience de plein air.
Oui, et vous avez même fait du camping d'hiver, ce qui est vraiment réservé
ouais.
aux gens qui savent ce qu'ils font. Et c'est assez rigoureux, le camping d'hiver. Beaucoup de ski, comme tu le disais, beaucoup de ski hors piste, dans des mm-hmm. régions peu explorées. C'est vraiment fascinant. Est-ce que ça va vous inhiber? inhiber cette expérience-là? Est-ce que ça va vous limiter? Est-ce que vous avez des séquelles ou des craintes maintenant ou vous êtes prêt à recommencer, à repartir?
Je dirais que dans les jours qui ont suivi, les 3-4 jours qui ont suivi l'événement, je me sentais comme assez ébranlé.
Oui.
Mais non, on est retourné hier. On est allé faire hier, en fait, à Gorman Lake, juste à côté de Golden.
Alors, on a bien entendu, on a bien entendu, tu as fait du ski hier au mois de juin, à mi-juin, à quelques jours du solstice d'été.
Ouais.
Peut-être
c'est
juste.
Exact.
OK, c'est merveilleux. Donc, c'était à quelle altitude que vous avez fait du ski hier?
Je dirais qu'on a skié entre 1800 et 2500 mètres d'altitude.
Magnifique, magnifique. J'ai un ami ici à Victoria qui était au Mont Washington dans le nord de l'île de Vancouver, un peu au nord de Nanaimo, on va dire, et c'était il y a quelques jours. Il me disait qu'aux environs de 1600-1800 mètres, il y avait genre 2 mètres de neige encore. Alors,
Il va faire beaucoup de neige au sol.
C'est ça, c'est remarquable cette année. Donc, vous avez peut-être pris davantage de précautions. Pour revenir à ma question, vous avez peut-être une nouvelle bonbonne de poivre de Cayenne bien remplie et un nouveau...
Oui. on a toujours nos deux bonbonnes de poivre de Cayenne dans la voiture, mais on les amène pas toujours avec nous.
Ah.
Mais maintenant, on les amène pas. On va toujours les amener avec nous.
Genre à la ceinture, quand même.
Oui, puis on fait énormément de bruit là, pour...
Oui.
Pour essayer d'avertir les ours qu'on arrive, pour pas se rencontrer face à face, pour leur faire peur avant d'arriver.
OK.
Puis éviter le plus possible toute forme de confrontation. Mais même dans les derniers jours, j'ai vu d'autres ours. On a vu un ours hier en voiture en allant justement skier. J'en ai croisé un en vélo il y a 3 jours, face à face, pour la santé. J'étais avec 2 amis. Puis l'ours avait un comportement, il n'avait pas peur comme ça. Celui-là, il restait sur le sentier, donc on est obligé de rebrousser le chemin et de remonter d'où on était venu.
D'accord.
Mais il y a beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup, beaucoup de neige encore dans les montagnes de la Colombie-Britannique, beaucoup plus que d'habitude à ce temps-ci de l'année. Puis c'est ce que l'agent de protection de la faune m'a dit à Golden, c'est qu'ils étaient dans les vallées encore, et très présents dans les vallées. Beaucoup plus que d'habitude à ce temps-ci de l'année, parce qu'il y a encore trop de neige dans les montagnes. Donc, leur source de nourriture est dans le bas des vallées, puis c'est pour ça qu'on en voit autant si proche des villes.
Ah, et ils ont faim, naturellement, puisqu'ils ont dormi tout l'hiver.
C'est ça, oui, ils ont faim.
OK. Bon, avec les précautions nécessaires, on peut fonctionner en plein air. C'est super. Gab, je mentionne aussi à nos auditeurs que tu es un jazzman accompli avec des prix, un album déjà à ton actif. Les auditeurs du débrief saison 1, en guillemets, connaissent ton travail puisque une pièce de ton récent album fermait l'émission tous les soirs. On reparlera sûrement de jazz dans le débrief. Ce serait chouette de faire une entrevue là-dessus au cours de l'été. En attendant,
j'espère.
Oui, ce serait génial. Il y a d'ailleurs un festival de jazz ici ces jours-ci à Victoria. Peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus. En attendant, en tout cas, je te souhaite du plein air très agréable, sécuritaire et puis plein d'oxygène, plein les poumons.
merci.
D'accord, merci beaucoup Gab pour ce récit d'aventure et puis on se retrouve très bientôt.
Super, bonne journée.
Encore merci à Gabriel pour cet entretien sur ce récent face-à-face en pleine forêt britanno-colombienne. On précise, car ce ne l'était pas fait de façon explicite dans l'interview, que la main de la copine de Gabriel se porte bien. C'est une blessure mineure, donc plus de peur que de mal, fort heureusement. Et on reparlera bien sûr à Gabriel prochainement à propos de plein air et aussi à propos de jazz. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du 16 juin. Excellent week-end. On se retrouve lundi 19 juin. À très bientôt.
CILSFM, la voix de votre commune.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tiva et on fait partie des nouveaux reporters.
Écoutez les nouveaux reporters sur CILSFM, l'émission réalisée par les étudiants des écoles francophones et d'immersion de la Colombie-Britannique, avec leur coup de cœur.
Pourquoi aimes-tu les Blue Jays de Toronto si tu vis en Colombie-Britannique?
Et des interviews.
Tu parlais à propos des manques de volontaires. Que fais-tu pour dépasser ces obstacles?
Très très bonne question.
Les nouveaux reporters, c'est vendredi et samedi à 18h sur CILSFM 107,9.
Jalousie, tu t'es saoulé de ces méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres. Maintenant, tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot.
Vous écoutez CILSFM, votre radio communautaire.
L'album Desjardins, un album hommage réunissant quelques-unes des plus belles chansons de Richard Desjardins, interprétées par 14 artistes de grand talent, dont Fred Fortin, Les Sœurs Boulay, Safia Nolin, Bernard Adamus et plusieurs autres. En vente partout dès le 28 avril.
Rendez-vous.
Découvrez la vie culturelle de Victoria.
Discover the cultural life of Victoria. En français.
And in English.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Rendez-vous sur CILSFM et CFUV, les deux radios de Victoria. Rendez-vous, c'est l'émission en français et en anglais qui vous emmène à la rencontre de ceux qui incarnent la vie de Victoria. Je m'appelle Adrien Blanc et pendant l'heure qui vient, je vais vous raconter ce qui se passe dans la ville et je vais vous donner des idées de sortie. On commencera par le reportage. Je suis allé voir les élèves de l'école francophone Victor Broder de Victoria qui ont fait une marche des fiertés mardi dernier. Ils ont marché de leur école jusqu'au Parlement de la Colombie-Britannique où ils ont rencontré la maire de Victoria, Lisa Helps. C'était une manifestation contre l'homophobie et pour la diversité, car oui, les discriminations existent aussi dans les écoles francophones. Nous parlerons ensuite du Festival international de jazz de Victoria qui commence le 23 juin prochain. Je vous présente dans cette émission le groupe québécois Nomadic Massive qui emprunte son style non seulement au jazz mais aussi au reggae et au hip-hop. On écoutera leurs chansons et leurs interviews dans cette émission. Et enfin, je recevrai la directrice générale de la radio Charlotte McCarroll pour faire un rapide état des lieux de votre radio communautaire francophone. En effet, CILSFM étant un moment charnière de son histoire.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
D'abord, on passe en revue les principaux événements culturels et communautaires de la semaine. Un nouveau chef pour la police de Victoria, après la démission de Frank Elsner poursuivi pour mauvaise conduite parce qu'il aurait utilisé le compte Twitter professionnel de la police à des fins personnelles, c'est le chef par intérim Del Manac qui prend la plus haute fonction. Del Manac travaille depuis 24 ans pour la police de Victoria et il a